Oui, Hervé Gardette, eh bien, cette semaine documentaire va commencer dans le Vivarais avant de nous conduire en Afrique. Jeudi et mercredi, nous pénétrerons dans le monde du prêtre vaudou Azé Kokovi Vina. Laurent Védrine a connu Azé dans son rôle de conseiller spirituel lors de la création du château musée vaudou à Strasbourg et pour ses interventions lors de la grande exposition Maître du désordre consacrée à l'animisme au Quai Branly en 2012. C'est cette fois-ci dans son pays, au Togo, que pour Sur les docks, il ira à sa rencontre. Et demain, nous suivrons avec Antoine Tricot la lente déconstruction d'une maison à la suite du creusement d'un tunnel près de ses fondations.
Et aujourd'hui, Irène, ce n'est pas la Lune, mais Mars que vous nous promettez.
Oui, Hervé, Mars est tout près. En fait, il faut se rendre sur le plateau Vivarais-Lignon pour être saisi par un monde où la vie se déroule à un rythme définitivement différent de celui des villes. Un rythme que quelques vacanciers vont sans doute bientôt rechercher.
Venez-nous filmer. On vous a un peu le potager.
Qu'est-ce que vous avez planté?
Des haricots. Et il s'est fait opérer d'un hernie, il ne faut pas qu'il force.
Il s'est fait opérer récemment?
Ça fait 8 jours aujourd'hui qu'il est rentré. Aujourd'hui, on est jeudi.
Oui.
Ouais, 8 jours aujourd'hui, il avait 4 hernies. Vous avez qu'à voir. Comment vous allez quand même? Je vous touche la main.
Merci,
bonjour.
Ça va.
Monsieur, ça, on ne voit pas trop mal. Je binais les pommes de terre là. Vous comprenez, c'est qu'il faut piocher. Hein. Et il ne peut pas forcer. Ah, et voilà.
Oui, il est courageux quand même.
Eh oui. Tu viendras?
J'y vais. Vous avez fini de courir.
Et voilà.
Mais je croyais que vous ne travailliez plus. Et vous êtes dehors, Madame Bouy.
On travaillera tant que le Seigneur nous donne la force et le courage. Il faut bien travailler. On en a 4, on en a 7 à nourrir, des petits tous. Petits-enfants. Et quand ils viennent, vous comprenez ce qu'on fait, hein? Quand nous sommes tous à table, nous y sommes 19, hein? Tiens, vas-y, je mettrai le...
Attends.
Vas-y. Et là, vous allez faire quoi avec nous?
On voulait savoir comment c'était de vivre sur le plateau.
Ce qui avait changé. Mais on va rentrer à la maison, moi je veux pas rester
non,
debout.
On peut...
La maison vous tombera pas dessus. Après, va. Ça...
Jean-François Magnier, vous êtes éditeur. Vous vivez depuis près de 40 ans sur le plateau du Vivarais-Lignon. Comment on pourrait décrire cette montée?
Alors, il y a deux façons d'arriver sur le plateau. Enfin, il y a beaucoup plus que ça, mais il y a la façon la plus simple, qui est en venant de Saint-Étienne. Et là, ben, Saint-Étienne, dans l'imaginaire des gens, puis pas seulement l'imaginaire, c'est une ville, c'est une grande ville, c'est une ville industrielle. C'est, donc, on part d'une grande ville, puis tout d'un coup, on commence à monter. Et assez vite, la végétation devient très présente, des sapins, et puis de l'espace. C'est ça qui, je trouve, quand on vient de Saint-Étienne est frappant, c'est que tout d'un coup, il y a de l'espace, on respire, et puis on arrive, on monte, Montfaucon, on a la Tence, et on arrive sur le plateau. Le plateau, c'est donc un peu plus de 1000 mètres d'altitude. Et là, les horizons s'ouvrent. Là, on voit loin, on respire bien. Voilà. Quelquefois, c'est un peu dur aussi, hein. Les routes peuvent être difficiles et c'est tout sauf un pays facile ici. Mais c'est un pays d'espace. Et puis quand on vient de Valence, alors là c'est terrible. Là c'est terrible parce que Valence c'est donc juste la porte de l'Ardèche. C'est tout près d'ici en fait, hein. C'est à 50 km du plateau. Mais ça tourne tout le temps. Il y a je ne sais pas combien de centaines, j'ose pas dire de milliers, mais de centaines de virages. Et là, alors on voit aussi la végétation changer, mais ça reste presque méridional pendant longtemps. Il y a des arbres en fleurs au printemps, alors que chez nous, pour avoir des arbres en fleurs, c'est plutôt au mois de juin. Hein. Voilà. Donc, deux façons différentes d'arriver sur le plateau, et puis finalement beaucoup d'espace, beaucoup un air pur, limpide, et un peu de... Voilà, des choses un petit peu difficiles dans le climat, oui.
Un jour sur Mars, chronique villageoise du plateau Vivarais-Lignon. Marie Chartron, François Test. de suite, après le village, c'est autre chose, une autre beauté. C'est le plateau, un ciel déposé sur les hautes terres. L'idée magistrale d'un monde arasé, sans limite. Plaque tectonique mise à nu, où se fixent les pensées tenaces des paysans, les rêves de purgatoire et les vaines constructions de nuages. Ces mots d'Agnès d'Argent racontent plutôt bien Mars, un village au perché, à la frontière entre la Haute-Loire et l'Ardèche, sur le 45e parallèle. Nous sommes en pays protestant, entre Saint-Agrève et le Chambon-sur-Lignon, et cette chronique martienne est plutôt bien nommée, puisqu'au-dessus de nos têtes, les frontières invisibles d'une réserve de ciel étoilé découpent la voûte nocturne et font du plateau un lieu d'observation privilégié des étoiles. Et sous ce ciel, on vit, on travaille, on va à l'école. Nous montons au petit matin dans le minibus du ramassage scolaire conduit par Corinne de Gabia, qui nous raconte en prenant le volant qu'elle a quitté Marseille pour trouver l'hiver.
Oui, après le chasse-neige, en période d'été, on enlève la lame.
Mais là, c'est curieux, il y a la pelle et installée tout, devant, accrochée au chasse-neige.
Il y a des années où c'est pas rare qu'il neige en plein mois de juillet ou au mois d'août. Donc, sinon, c'est des orages de grêle qu'il faut dégager. Donc là, on quitte le village. On va dans les petits hameaux aux alentours. Donc, pour récupérer les enfants et les amener à l'école.
Et la tournée, le ramassage scolaire se fait uniquement en Haute-Loire ?
Non, il y a deux enfants qui habitent, enfin trois enfants qui habitent sur la commune de Mars, qui se trouve en Ardèche. Et qui viennent à l'école au Vastre. C'est une classe unique, donc qui va de la grande section maternelle jusqu'au CM2, donc avec une maîtresse pour tous les niveaux. Bon, là, à l'heure actuelle, ils sont une quinzaine. Sachant que bon, chaque année, il y en a qui partent au collège. Le problème qui se pose ici, c'est qu'il n'y a pas de famille qui arrive par rapport au boulot, quoi. Il n'y a pas suffisamment de travail ici. Donc, petit à petit, d'année en année, l'école est en sursis. Voilà.
Donc, la commune de Mars, dont je suis le maire depuis 2001, 286 habitants, 1865 hectares. Alors, le village principal Mars, et puis des gros hameaux. Il y a beaucoup de campagnes, c'est un habitat dispersé. Donc, beaucoup de voiries, beaucoup de réseaux d'eau, et difficile à entretenir et coûteux. Nous avons beaucoup d'agriculteurs, 10 agriculteurs. Donc la vache laitière, vache allaitante, chèvrerie. Nous avons une ferme hélicicole, escargot de Mars, un apiculteur. Nous avons une dame qui fait de la poterie céramique.
Et d'où vient ce nom, un peu curieux ?
Alors Mars, c'est pas la planète, hein, c'est le dieu de la guerre. Les Romains, 100 ans avant Jésus-Christ, avaient établi leur camp dans ce lieu et guerroyaient dans le Velay. Et suite à des victoires, ils avaient donné ce nom de Mars à ce lieu.
Quand le village a-t-il été nommé Mars, Henri Guillot ?
En 1905 ou 6. Donc le village avant s'appelait Saint-Romain-le-Désert. Et puis Mars s'est développé plus rapidement que le hameau de Saint-Romain. Mars était sur une grande route, Valence-le-Puy. Et donc le conseil municipal a décidé de changer de lieu et de nom de commune.
Pour info, l'exploitation hélicicole de Mars, c'est c'est 150 000 escargots. 150 000 escargots mis en parc. Le but, c'est d'en récolter 120 000. 120 000, c'est escargots qui finiront dans l'assiette. C'est ce qu'il faut pour faire tourner la ferme.
L'hiver a été rude sur Mars ?
Du tout. Il était très 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 doux. Et par contre, on paye maintenant. C'est-à-dire que le printemps a été, jusqu'à présent, un mois de mars exceptionnel. Dans la continuité de sur Mars, sur la continuité de l'hiver. Par contre, maintenant, un mois d'avril limite et un mois de mai, franchement, pas bon.
Et qu'est-ce qui conduit quelqu'un à venir élever des escargots à Mars ?
Les aléas économiques. J'ai subi deux licenciements économiques en 96 et 98. Et en fait, ça a été pour moi une période, soit je continuais dans ma branche, qui était la microélectronique sur Grenoble, soit je changeais complètement, et quitte à changer, autant essayer de faire quelque chose qui plaise. Donc je me suis dit, pourquoi pas se lancer dans un élevage à taille humaine. C'est-à-dire que depuis le départ, mon idée, c'était de maîtriser tout de A à Z. Si ça marche, ce sera grâce à moi. Si ça marche pas, ce sera à cause de moi. Le fait de venir à Mars, il faut être un peu ours au départ. Mais il faut aimer le froid, il faut hiberner de temps en temps aussi. Et puis, il ne faut pas être pressé, quoi. C'est-à-dire que les gens viennent à vous, naturellement. Par contre, il ne faut pas être pressé.
On disait, moi je n'étais pas bien sûr, mais on disait que autrefois les vaches restaient à l'étable 7 mois par an. C'est long, hein, pour les vaches. Donc en fait, l'hiver ici est long. Il était très rigoureux, il est moins aujourd'hui bien sûr, mais il y avait beaucoup de neige, il y a toujours. Après un printemps, c'est ça qui est peut-être le plus difficile, c'est le printemps est très court, il arrive tard et il est très court. Et puis un été somptueux et aussi un automne somptueux, jusqu'à la Toussaint. C'est une très belle saison, l'automne, ici. Et en gros, les feuilles, il n'y a plus de feuilles aux arbres autour du 15 novembre. Donc c'est tout sauf un pays séduisant. C'est pas un pays qui rit, c'est un pays qui touche, c'est un pays qui émeut. C'est un pays... moi, je ne suis pas du tout originaire d'ici, et j'y ai fait ma vie, et c'est une vie heureuse. Mais c'est pas un pays qui rigole, hein. C'est un pays qui se mérite.
J'ai lu Une terre de silence. C'est une terre de silence.
Les gens qui habitent ici sont un peu taiseux, sont un peu de silence aussi. C'est-à-dire, ils veulent pas séduire. Il faut du temps. Alors je le dis d'autant plus que moi, je viens de l'extérieur. Les gens ont pas envie de faire des efforts pour vous plaire. Voilà. C'est pas du tout méridional. Pas du tout, du tout. Donc, c'est un peu silencieux. Et puis, quand la parole est donnée, quand l'engagement est pris par la parole, on peut compter dessus aussi. Hein, il faut un peu de temps pour qu'elle vienne, mais après, elle est solide.
Entrez. Pardon. Ah. Asseyez-vous. Vous ne payerez pas mieux la sortie, je dis aux gens. Ça. Eh oui. Dors, pépette. Dors. Allez, viens, viens, dors, c'est pas ici. Et voilà.
Vous êtes les derniers paysans ici ?
Eh oui, on est bien les derniers paysans qu'on a pris la retraite ici, nous. Mais enfin, on se plaint pas.
Oui.
Il y a mieux malheureux que si.
Aucun de vos enfants n'a voulu reprendre
l'exploitation. Non, mais heureusement.
Oui. Il aurait fallu travailler encore plus.
Il faut être né là pour rester madame.
Alors comment on peut raconter la vie sur le plateau à une personne qui ne connaît pas du tout ?
Oh ben ça a changé de...
Oui.
Il y a plus de 50 ans qu'on est ici.
52.
52 ans, oui. Et au début, là, quand on a débuté, c'était toutes des petites exploitations. 6, 10 vaches, 10 bêtes, 20.
Et puis, on avait des gens de ville.
Et on a commencé avec à atteler les bêtes pour faire le travail. On n'avait pas de tracteur. Ça faisait une année, ou deux. Je crois que la vie était aussi heureuse que
maintenant. Le moderne a tué l'homme.
Oui, je pense. Oui.
Vous ne le dites pas.
Ils ont mis des grosses machines
Il n'y a plus besoin de personnel.
Les gens sont trop exigeants au jour actuel, je ne vous cache pas. Hein. D'abord, ils ont tous mieux du confort, je n'ai pas honte de le dire. Il faut que du confort de partout. Mais l'égalité, vous savez où aller, hein.
Elle est où?
Là-haut.
Vous êtes protestant?
Oui. L'égalité, elle est là-haut, je dis. Ouais. Parce que je dis souvent aux gens, il y en a que ça les fâche, ça les vexe, ça leur fait plaisir. Je leur dis que vous soyez riches, pauvres, humbles, bien, aisés. Il y en a un qui vous dit tout à coup, viens un peu ici. Et nous prend. Et maintenant, je pense que les gens sont trop exigeants, trop égoïstes, trop... Je pense, je ne sais pas.
Il n'y a pas la même mentalité
que dans le temps.
Que dans le temps, hein.
Parce qu'on sait...
Les agriculteurs, oui. C'est des petits agriculteurs, oui. Mais ils s'aidaient les uns les autres. On faisait les travaux ensemble. Oui. Il y avait les moissons. Alors, oui. Les voisins venaient
pour aider. Le lendemain, on partait ailleurs.
Et puis le lendemain, on allait chez le voisin.
Oui. Ça durait 8 ou 15 jours, ça.
On se communiquait mieux. Et on faisait les veillées dans l'hiver.
Et tandis que
maintenant chacun pour soi.
Et Dieu pour tous.
Et donc, vous êtes protestant, vous allez encore au temple?
Oui, de temps en temps, on va pas continuellement. Non, hein.
Non. Ça s'est pas un peu perdu, ça?
Un peu.
Ah, si, il n'y a que des têtes blanches là-bas. Jeunes, quand nous allons jeunes, au temple au Chambon, il n'y a que des têtes blanches. Vous ne voyez pas un jeune qui va au temple.
Hein. Et je pense que même les.
Et à l'église, c'est
l'église,
partout.
C'est pareil. Hein.
Que ce soit l'église, que ce soit le protestant, que ce soit le darbiste, que ce soit.
Les gens ne pratiquent plus. Hein.
Oui, ils ne pratiquent plus. Et nos enfants, moi, j'ai pas honte de le dire.
Non, mais il y a peut-être moins de.
Ils ne pratiquent pas, hein. On les a fait baptiser petit tour, on leur a fait faire leur première communion. Mais et puis... je les dispute, je leur dis, vous allez au temple. On n'a pas le temps. Hein, moi, il fait, vous le verrez bien. Hein.
J'en dépends.
Oui. Ça. Et oui, la vie n'est pas facile.
Par où on a commencé la tournée?
Là, c'est le dernier hameau de la commune des Vastres. Après, quand on descend un peu plus bas, c'est fait partie du Chambon sur Lignon.
Parce que là, on a parcouru 2-3 km. Matin. Combien? 3 km ouais. Au petit matin, avec des genêts et les montagnes noires.
Voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde, là.
Oui, là, le seul habitant vivant, c'est un chien.
Voilà. Bah, c'est le chien de la ferme, là, le petit qui arrive.
Ah, on l'aperçoit courir au loin.
Il court parce qu'il est un petit peu en retard.
Il court et il perd ses vêtements. Avec son cartable à roulettes.
Allez, je vais le faire rentrer. Donc là, c'est le plus loin, le hameau le plus loin de ce côté-ci, des Vastres. Après, on va faire deux autres petits hameaux qui sont un peu plus proches de l'école. Et après, on partira de l'autre côté pour aller sur la commune de Mars. Donc ici, bon, c'est tous des enfants d'agriculteurs, hein. Donc le père travaille à la ferme, bien souvent les femmes elles aident, ou sinon elles ont un travail ailleurs, pour faire rentrer un salaire, quoi. Parce que la vie est dure quand même. Voilà, donc le matin bonheur, tout ce qu'on peut croiser c'est des animaux. Au petit matin comme ça, on peut croiser des chevreuils, on peut croiser des lièvres, des renards. Voilà, c'est la campagne, quoi.
Aimez dans la nature le matin quand vous faites le ramassage scolaire, Corinne de Gabien?
Le calme, la sérénité du petit jour qui se lève, seul sur les routes, c'est grisant.
Sur le plateau, apparemment, on est assez tributaire de la nature et des saisons aussi.
Oui, on vit au rythme de la nature, de toute façon, au rythme de l'hiver, au rythme des saisons. Là, c'est pareil, on est à 1000 mètres d'altitude, on n'a pas encore commencé les potagers parce qu'il fait encore pas très chaud. Donc c'est vrai qu'on vit beaucoup avec la météo et le temps qu'il fait, quoi.
Jean-François Magnier, vous vivez ici, vous fabriquez des livres ici, et tous les ans, vous organisez les lectures sous l'arbre. Plusieurs écrivains ont séjourné et écrit ici, par exemple Albert Camus, qui a été soigné pour une tuberculose en 1942.
Camus, effectivement, en arrivant d'Algérie, il était malade, il est venu se soigner ici, respirer un air meilleur. L'hiver 42, bon, on le sait assez largement, c'est un hiver terrible. Camus, lui, il est arrivé d'Algérie, de la chaleur, le soleil de l'Algérie, les femmes de l'Algérie. Il est arrivé ici, il a trouvé ça terrible. Il en parle dans ses carnets. Je ne crois pas qu'il ait aimé tellement ce pays, Camus. Mais il y a travaillé, il a écrit une première version de La Peste. Il y est resté. Il a quelques fragments dans ses carnets qui sont assez... Qu'est-ce qu'on va dire ? Je ne crois pas qu'il ait été... terriblement séduit par ce pays, mais néanmoins il est revenu encore après la guerre, donc il devait quand même aussi un peu apprécier, mais je crois qu'il l'a trouvé très rude, très froid, très rude, et contrairement à un autre grand écrivain qu'on cite souvent quand on parle du plateau Vivarais-Lignon, c'est Francis Ponge. Ils se sont croisés pendant la guerre, mais Ponge y est revenu plus souvent encore après, il a même rencontré sa femme, il a écrit plusieurs de ses livres majeurs ici. La fabrique du Pré, le carnet du bois de pin, de Ponge, ça a été... On sait même où sont ces lieux. Voilà, donc Ponge peut-être plus attaché que Camus, plus viscéralement attaché. Ponge était protestant, et voilà, on sait que ce pays, il est d'histoire très protestante. Ponge se sentait plus en affinité profonde que Camus, qui trouvait le pays bien difficile.
Il écrit « Sur les plateaux du Mézin, le vent à grands coups d'épée sifflant dans l'air. » C'est court.
Je crois que ça dit bien. Il y a encore des lignes qui sont plus... Il y a quelques lignes sur la descente qu'il faisait d'ici jusqu'à la gare de Saint-Étienne et l'arrivée à la gare de Saint-Étienne qui sont assez, assez terribles. Bon. Donc Camus, extrait de ses carnets. Saint-Étienne et sa banlieue. Un pareil spectacle est la condamnation de la civilisation qui l'a fait naître. Un monde où il n'y a plus de place pour l'être, pour la joie, pour le loisir actif, est un monde qui doit mourir. Aucun peuple ne peut vivre en dehors de la beauté. Il peut, quelque temps, se survivre, et c'est tout. Et cette Europe qui offre ici un de ses visages les plus constants s'éloigne sans arrêt de la beauté. C'est pour cela qu'elle se convulse et c'est pour cela qu'elle mourra si la paix pour elle ne signifie pas le retour à la beauté et sa place rendue à l'amour.
C'est Jean de Mars et la première maison en fait c'est la maison de Riri. Donc Riri est un personnage de Mars. Sa famille est de Mars, il est né à Mars et voilà. Donc il est porteur de toutes les de la culture de Mars.
En fait. Ce chemin là,
c'est le chemin qui mène aux gens de Mars, mais en fait il est plus connu sur on appelle ça le chemin du Riri en fait.
Là, on arrive et il y a des constructions un peu curieuses.
Oui.
Des petits rubans en plastique vert,
voilà,
qui sont attachés aux clôtures. C'est comme si les clôtures étaient agrémentées. Ça ressemble à une œuvre d'art brut, avec à la fois des bâtons,
des diablotins.
Des diablotins, des panneaux.
Beaucoup de récupération, voilà.
Bâtons de ski à vendre.
Voilà.
Bonjour.
Bonjour. C'est un Mars.
Voilà, on vient voir un vieil habitant de Mars.
Vous n'en savez pas comme des gens des plus vieux que moi, hein.
Ah
quand,
bon,
quand j'étais jeune, il n'était pas tout le temps là, moi, hein, des fois, hein. Quand j'étais jeune, moi, hein, aussi, hein, pour ça, hein, pour ça, hein.
Donc là, c'est chez vous.
Voilà.
Et puis la cour
voilà.
est pleine de ces objets.
Oui, oui, ouais, c'est tout, ouais, pour ça.
Riri la brocante, c'est vous.
Voilà. Alors, c'est mon voisin qui m'a fait ça, pour rigoler.
Bon, parfois il y a des prix, mais il n'y en a pas sur tous les objets.
Si ! Ah si ! Là, il y a les prix, là. Il y a les prix où ? Là aussi. Et on a les pots. Je mets dans les pots, dedans. Surtout quand il fait beau, ça va. Quand il fait mauvais.
À vendre. Un toboggan à 5 euros.
Oui, celui qui met deux piquets, là.
Un vieux lavabo à 5 ouais. euros.
Et c'est ça. c'est mon invention, ça. Hein, ça.
Ah, pour lester.
Et l'hiver, je démonte tout ça, l'hiver. C'est ça, le problème. Redémonter, remonter, redémonter. Et voilà.
Et là, cette porte...
C'est mon écurie qui avait mes vaches. C'est la cabane Ali Baba. Oh, voilà. La vie va bas, c'est tout fermé. Regardez ça. C'est pas, hein. C'est le bordel, hein. Regardez. Le bordel restera un bordel après moi, déluge.
Des outils.
Ouais.
Des chapeaux de lampe.
Voilà.
Des fils.
Ah ouais, des fils, j'ai
rempli. Des images.
Ouais.
Des petites statuettes, des horloges.
Tout.
Une collection de Scooby-Doo.
Ah oh, oui. Il y en a des Scooby-Doo, hein. Encore, j'essaie encore les faire, encore.
Oui.
Rond et carré.
Comment c'est la vie sur Mars?
Pas grand. Il n'y a pas grand monde, hein. En Mars, on passe aux personnes, des fois. L'été, un peu mieux, quand il fait beau.
Vous avez quel âge?
J'aurai bientôt 62 ans, moi. Je suis un jeune, hein? 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 Je suis jeune. Il y a encore des problèmes de santé, la jambe, il y a encore. Il y en a boiteux, hein? Il y en a boiteux, hein? Et voilà, c'est comme ça, hein? Et voilà. Hein? Tant mieux, hein?
Sébastien, assieds-toi bien comme il faut au fond du siège. Je vais vous les attacher les jambes. Comme ça, vous ne vous plus.
Et regardez, on va passer au reportage de la radio.
Mais il dit radio.
Alors il faut bien parler. Hein, il faut bien bien parler. D'accord, il faut bien bien parler. Si tu veux passer à la radio.
Comment ça, il ne veut pas passer à la radio?
Est-ce que c'est
quoi
ta chanson?
Boulevard désert. Je connais. C'est un chanteur.
Ah.
Si j'étais celui, toi tu es le son.
Ah, je connais. Mais moi, je la connais pas le titre, mais je la connais à la radio.
Le titre, c'est.
Si j'étais celui, toi tu es.
Non, c'est Books.
Si j'étais celui, voilà. Toi tu es.
Gentil d'abord.
de la première tournée?
Ça, c'est la fin de la première tournée.
Parce que le minibus est plein.
Oui. Donc là, on va les déposer à l'école et on va repartir pour le deuxième tour. Voilà, l'école est là.
Celle-là, tu as fait écouter.
Allez, c'est arrivé.
Timide, j'aime pas me montrer.
Ne vous inquiétez pas. Alors hier, j'ai dit que j'avais rendez-vous avec les Roches et on m'a dit oui, mais quelles Roches?
Oui.
Parce que c'est vrai qu'on a fait un tour au cimetière et on a l'impression qu'il y a trois noms de famille.
Oui, oui, oui.
Vous êtes tous de la même famille ici?
Non, aucun.
Mais tout le monde porte le même nom.
Oui. Et Hélène vous a parlé du Riri aussi, elle voulait absolument que vous voyiez le Riri.
On a vu Riri, alors comment vous le décririez, vous, Riri?
Notre Riri, c'est le Riri de Mars. C'est... J'allais dire la mascotte du village.
Vous êtes originaire de Mars, tous les deux.
Oui.
Comment on appelle les habitants de Mars?
Les Marsois.
Mais on dit plus souvent les Martiens.
Oui, mais enfin, c'est pour rire aussi. On allait à l'école ensemble, mais en fait...
Il y avait deux écoles à Mars.
Hein?
Il n'y en a plus.
Quand est-ce qu'elle a été supprimée, l'école de Mars?
En 72, par là.
Et vous vous êtes rencontrés à l'école?
Non, c'est vrai. Il y avait l'union chrétienne, là. Les jeunes, on allait à... On se rassemblait le dimanche après-midi, on allait à l'union ensemble. Mais enfin, on se voyait bien. C'était pas bien loin.
Qu'est-ce que vous pourriez dire de l'évolution de Mars? Comment ça s'est transformé en 88 ans?
On a vu arriver le progrès. On n'avait pas le téléphone, il y a eu le téléphone. On n'avait pas l'électricité. L'électricité est arrivée en même temps.
On a connu le temps où il n'y avait pas les chasse-neige et c'était le cantonnier. Et c'était le...
Oui, on déneigeait à la pelle, à la main. Alors tous les paysans de la commune, et ceux qui voulaient travailler, ils étaient payés un petit peu, donc ils venaient travailler, ils venaient dégager la route à la pelle. Ils faisaient 100 mètres par jour. Mais il y avait plusieurs équipes entre ici et Sainte-Agrève. Seulement si le vent se remettait à souffler, le lendemain c'était de nouveau à recommencer.
Oui, mais il y avait des chevaux. Il y avait
des chevaux.
On se déplaçait en traîneau avec...
Les engins de déneigement aujourd'hui, c'est plus les mêmes.
C'était pas du tout la même vie. Il y avait. C'était pendant la guerre. Il y avait un tailleur, il y avait trois bistrots,
oui.
Si on appelle ça. Il y avait deux maréchal ferrants. Il y avait une repasseuse, elle repassait les coiffes des grands-mères.
Oui.
Mais qu'est-ce qui a changé alors? Est-ce que le village s'est vidé de ses habitants?
Ah oui. Le village, oui.
On est des Marsois de souche. On est combien? Le Riri, la Mimi.
Alors qu'il y a eu l'exode rural, tous les agriculteurs sont partis. Hein. Tous ceux qui ont pris la retraite et puis d'autres qui sont partis travailler ailleurs.
Oui.
Ça a tout disparu en peu de temps. Hein.
Qu'est-ce que ça a de particulier d'être maire d'une petite commune, Henri Guillot?
Ça a de particulier qu'on fait beaucoup de bénévolat. On n'a pas de service technique et donc on travaille énormément quoi, avec le conseil. Énormément de bénévolat. Quand les fossés sont bouchés, les aqueducs, on débouche. Les égouts, on débouche. La station d'épuration, on désherbe. Avant, on avait une petite intercommunalité de 7 communes. Et là, on se retrouve avec 34 communes, alors on est un petit peu perdu. Et les réunions sont tout au Chélard, donc beaucoup de routes. Beaucoup de temps perdu sur les routes.
Et ce soir, vous vous réunissez pour nommer les rues de Mars.
Voilà, il y en a qui sont déjà nommées, mais c'est pour faire des tronçons. Il va falloir qu'on fasse un départ et une arrivée. Et tout le long, on va donner des numéros métriques.
Pourquoi vous avez besoin de ça ?
Ça sert à beaucoup de choses. Hein. Bon, pour la poste, pour les pompiers, pour les docteurs, pour les infirmières, pour... et puis pour l'ADN, Ardèche Drôme numérique, pour être éligible à la fibre optique. Et ça, on voudrait bien l'avoir.
Et les rues, comment vous allez les nommer ?
On avait déjà des idées. La rue de la planète, rue du couchant, rue du levant. Il y a déjà quelques idées qui ont été avancées par des conseillers.
Un petit tour.
Observatoire Planète Mars de Saint-Romain-le-Désert en compagnie de Rémi Padilla.
Comme je le disais, on est loin des grandes villes. Lyon est à plus de 2 heures de route, Saint-Étienne, voilà, Valence. Donc là, on a vu sur le plateau de l'Ardèche, on voit Saint-Agrève au loin. Alors malheureusement, aujourd'hui, on ne voit pas les Alpes, mais d'habitude, on a une très belle vue des montagnes enneigées jusqu'ici. Hein. Ah, on a le petit hameau de Saint-Romain-le-Désert. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au sud, en fait, on a le parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Et en astronomie, vu qu'on est dans l'hémisphère nord, là où le plus d'étoiles, d'objets vont passer, en fait, c'est au sud. Donc là, on a un ciel au sud qui est vraiment bien préservé, bien protégé, puisque c'est les Monts d'Ardèche. Et comme vous l'avez vu, on a un horizon qui est dégagé à 360 degrés. Donc en fait, les raisons en fait, qui ont fait qu'on a construit un observatoire ici, c'est que déjà, on est en altitude, on est à 1080 mètres d'altitude, on est au-dessus de ce qu'on appelle la première couche de l'atmosphère. Donc on va avoir un ciel qui est un peu plus transparent, qui est moins turbulent, c'est-à-dire qu'il y a moins de choses d'air qui va vibrer, qui vont nous gêner dans nos observations. Et on est loin donc de la pollution des villes et on a un horizon dégagé. Parce que quand on construit des observatoires, par exemple en montagne, on a un très bon ciel. Mais souvent, voilà, il y a une partie du ciel qui nous est bloquée. Là, on est complètement dégagé, donc on peut observer des objets même à ras l'horizon. Je vais finir le petit tour. Et là, derrière la cime des sapins, on devrait apercevoir le Gerbier de Jonc et le Mont Mézin. Et le Suc de Sahara entre les deux. Ils sont un peu durs à voir. Voilà.
On aperçoit entre deux sapins un pic bleuté. Qu'est-ce qu'on verrait ce soir si on regardait dans le télescope ?
Alors ce soir, il y a la Lune qui vient nous gêner encore un peu parce qu'elle était pleine samedi. Donc là, elle est en phase gibbeuse décroissante. Et donc vu que la Lune est là, on va pas pouvoir vraiment observer ce qu'on appelle le ciel profond. Mais avant qu'elle arrive, on peut peut-être essayer quelques galaxies de printemps. Donc justement les galaxies du Lion, il y a les galaxies en dessous dans la chevelure de Bérénice. Il y a ce qu'on appelle la chaîne de Marc Ariane, c'est un ensemble de plein de galaxies. Donc c'est des galaxies qui font juste des ovales gris, donc c'est pas très intéressant en soi, mais il y en a plein au même endroit, et donc avec un seul coup d'œil au télescope, on voit plein de galaxies. Donc ça, c'est vrai que c'est assez sympa. Et le printemps, c'est vraiment, voilà, c'est les galaxies, le printemps.
On va passer, voilà, là on est en Haute-Loire, là on va passer en Ardèche, après on repassera en Haute-Loire, on repassera en Ardèche.
La délimitation du goudron sur la route.
En hiver, il y a vraiment une délimitation entre les chasse-neige qui sont d'Ardèche, qui s'arrêtent vraiment à la limite ardéchoise, et puis les chasse-neige de Haute-Loire.
Concrètement, vous avez une route enneigée et une route déneigée.
Ça arrive souvent.
Où est-ce qu'on va maintenant?
Donc là, on va sur la commune de Mars, récupérer les trois enfants qui sont sur la commune.
Déjà, rien que le portable ici il passe mal. Donc ici aux pompiers, en plus quand tous les jeunes ils m'appellent sur leur portable et j'ai juste le temps de faire allô et j'entends plus rien. C'est vrai que c'est un handicap hein, de ne pas avoir le téléphone comme il faut. Et... Parce que à Saint-Agrève, Orange passe, ici c'est Bouygues parce qu'il y a une antenne juste à côté à Montréal. Au Chambon, c'est SFR. On ne peut pas avoir trois téléphones.
Ça fait longtemps que vous travaillez chez les pompiers, Françoise Roche?
15 ans. Ouais. Bon, d'abord, au début, on était très peu d'infirmières. Maintenant, on est peut-être 70 sur le département. On a fait une formation et on a une quinzaine de protocoles. Et on a notre sac propre, et ce qui fait qu'on peut intervenir sans avoir de médecin. Puisque les médecins deviennent de plus en plus rares ou ne sont pas toujours disponibles. Pour ça, c'est bien, hein, surtout au niveau de la douleur. Nous qui sommes loin, on a minimum une heure de trajet, hein, du premier au premier hôpital. Quand tout va bien, qu'il fait beau comme aujourd'hui.
Vous êtes pompier volontaire, vous êtes infirmière, c'est votre profession.
Oui.
Au Chambon-sur-Lignon.
Oui.
Vous êtes conseiller municipal.
Oui.
Vous chantez dans une chorale.
Oui.
On a l'impression qu'il y a toujours beaucoup de casquettes sur le plateau.
Ah, c'est sûr. Enfin, il y en a qui sont toujours très pris. Après, on dit à personne, mais c'est un peu toujours les mêmes à qui on demande et qui sont volontaires, quoi.
Vous avez toujours vécu ici.
Oui.
Et vous n'avez jamais eu envie de partir.
Non, pas vraiment. Parce que je me sentais bien là, quoi. Les bois, la nature, voilà, les animaux. C'est vrai qu'on sort du travail, on est tout de suite dans la campagne. On sort à 4 heures, une demi-heure après, on peut avoir un kilo de champignons dans son sac, quoi.
Et les gens viennent s'installer à Mars?
Des gens de Saint-Agrève ont fait construire parce que les terrains étaient moins chers ici qu'à Saint-Agrève.
Il y a des commerces ambulants, une boulangerie?
Il y a le boulanger qui passe. Puis, je sais pas, le maire a dû vous parler de son projet d'ouverture d'une boutique. C'est la création d'une petite boutique, ben justement, pour faire un petit lieu où les gens se retrouvent un peu, quoi, tout au long de l'année. Une petite épicerie de dépannage et aussi le côté touristique avec les produits du terroir et un peu en relation avec l'observatoire et l'astronomie. Voilà.
Les terres du silence, ça correspond bien à Mars?
Oui, je crois, oui.
Pourquoi?
Les gens ne parlent pas beaucoup, oui. Ils sont pas... je sais pas.
Ils racontent pas leur vie. Sans... Puis il y a les... Monsieur Joule, donc, c'est les Darbys. Et alors là, eux, ils sont très
stricts.
Qu'est-ce que c'est, les Darbys?
Eh bien, c'est...
C'est une religion.
C'est des évangélistes. Ils se disent protestants, mais... Alors, d'après la Bible, ils ne se coupaient pas les cheveux. Maintenant, ça a changé, mais bon. Ils ne portaient pas les pantalons, c'était interdit. Alors, on n'allait pas danser, on n'allait pas... Alors, c'était tout à fait... Mais ça a changé maintenant. Ils ont bien évolué quand même.
Mais il y en a toujours des Darbys.
Eh bien oui, là, si vous allez voir M. Jouve, son père était prédicateur aussi. Parce que c'est des laïcs qui... Enfin, oui. Ils n'ont pas fait des études de théologie.
Et ils ne vont pas au temple?
Ah non, leur lieu de culte, c'est ce grand bâtiment qu'on voit de là, qui ressemble à une usine, des fois les gens nous disent. Mais c'est un local où il y a 1000 personnes. Et alors, je vous dis bien, les protestants, ici, on avait cette influence. Fallait se tenir à carreau. J'avais une amie, un jour, qui... Ben, c'était la repasseuse. Le soir, elle lui dit « Bonsoir, Marie ». Elle lui dit « Bonsoir, monsieur ». Parce qu'elle avait un pantalon. Alors, ça faisait dire que...
Lucien Jouve, avant d'être relieur, vous avez longtemps été agriculteur ici sur le plateau, où revient souvent cette notion de silence.
Peut-être la tendance générale, c'est que chacun vit sa foi en secret. Bon, au temps des persécutions, on avait peut-être intérêt à la vivre en secret. Donc ça date peut-être un peu du XVIe siècle, XVIIe siècle, où les chrétiens étaient persécutés dans notre région et avaient trouvé refuge. C'est une zone refuge.
Et les chrétiens protestants.
Les chrétiens protestants, comme dans les Cévennes aussi, parce que c'est d'un accès plus difficile. Alors, est-ce que ça a laissé des traces encore aujourd'hui?
Vous avez été élevé dans cette foi protestante?
Oui, j'étais... Mes parents étaient chrétiens, mon père était même prédicateur, et moi aussi, je suis un chrétien convaincu. Et je crois le message de la Bible, mais j'enseigne la Bible et ma foi est en Jésus-Christ mort et ressuscité. Ça, c'est certain. Et beaucoup d'habitants du plateau ont la même foi et le disent et le propagent. C'est ce qu'on appelle l'évangélisation. On a un message. On fait pas du prosélytisme, mais on a un message auquel on croit. Et on désire le faire connaître aux personnes qui nous entourent.
Il me semble me souvenir que les sépultures sont un peu disséminées sur le plateau.
Ah, ça, c'est une particularité du plateau, oui. Du plateau de toute notre région. Justement, j'ai...
Où est-ce qu'on enterre ses morts, ici?
Voilà. Ça date aussi du temps des persécutions. Nous avons, dans la famille, nous avons notre propre cimetière familial. Et il y a beaucoup de cimetières familiaux dans notre région. J'ai demandé un jour à un monsieur qui est des pompes funèbres, et donc son père l'avait déjà fait, il avait recensé plus de 160 cimetières familiaux, de Sainte-Agrève, Failly, Le Mazet, enfin toute la région protestante. Et ça, ça date du temps des persécutions où il fallait enterrer un peu en catimini. On ne peut pas en ouvrir de nouveau, la loi ne nous permet pas, mais on peut encore enterrer nos morts dans ces cimetières familiaux. Bon, il y a certaines normes européennes, il y a des contrôles par un hydrogéologue à cause des puits, mais sinon, en règle générale, on peut continuer.
À quel point le protestantisme irrigue encore le plateau et façonne les rapports entre les hommes? Est-ce que ça existe encore vraiment, Jean-François Magny?
Moi, je suis arrivé en 78. Le protestantisme était encore très vivant. Il l'est encore. Beaucoup moins, bien évidemment, que pendant la guerre ou avant. Pour prendre l'exemple de la politique, les protestants votent traditionnellement à gauche. Depuis quelques élections, le Chambon vote à droite. Donc voilà, les choses... c'est un fait objectif. Jusque dans les dernières années, il y avait par exemple un vote du temple. Le temple, en gros, la communauté de l'Église réformée avait un peu son candidat au municipal. Alors c'est pas du tout intransigeant, c'est pas dur à vivre.
Et puis il y a aussi toutes ces branches un peu dissidentes, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, du protestantisme, qui sont les darbistes. Et puis on a entendu parler aussi des purs. Alors là, ça reste très mystérieux. Qu'est-ce que c'est?
À partir de cette souche protestante, sont nés un certain nombre de communautés. Alors nous, on dit jamais des sectes ici. On parle de communautés de prière. Certaines fois, ça ressemble peut-être un peu à des sectes, mais il y a une grande tolérance ici. On ne dira jamais, voilà, c'est la secte des purs. C'est pas comme ça. Même si, effectivement, c'est une communauté de prière qui vit un peu à l'écart, ou même très à l'écart, avec les filles qui ont des cheveux longs, qui ont un petit foulard sur la tête, qui vont pas forcément à l'école bien au-delà de 16 ans. Enfin, voilà, il y a effectivement ici des communautés qui sont à la fois dans la vie, c'est-à-dire que ben voilà, vous pouvez avoir comme plombier, ce sont en général de très bons artisans d'ailleurs, vous pouvez avoir un pur, entre guillemets, comme plombier. Il ne faut pas tomber en panne de chaudière le samedi, parce qu'il ne viendra pas vous réparer le samedi. Mais tout ça se vit pas si mal, en fait. On le sait. Par exemple, les purs, les hommes, surtout, prêchent souvent le samedi sur la place du village, mais ils prêchent un peu dans le désert. Ils sont tout seuls et ils haranguent une foule qu'il n'y a pas, d'ailleurs. Il n'y a personne. En fait, personne ne s'arrête vraiment, mais ils disent à quel point il faudrait qu'on soit qu'on soit plus fidèle à la parole du Christ ou quelque chose comme ça. Donc c'est présent. Oui, c'est présent. Ça peut avoir éventuellement un peu de poids politique, et c'est pas non plus les guerres de religion.
C'était Un jour sur Mars, chronique villageoise du plateau Vivarais-Ligneux. Avec Marguerite et Hébert Roche, Jean-François Magnier des éditions Chêne, Henri Guillot, Sylvain et Maureen Rochon, Lucien Jouve, Françoise Roche, Corinne de Gabia, Henri Roche, Monsieur et Madame Bouix. Merci à Hélène Dufour et Simone Vialon. Attachée d'émission, Christine Bernard et Alison Sinard. Coordination, Irène Omelianenko. Un documentaire de Marie Chartron et François Test pour Sur les Docs.
Et cette journée sur Mars, vous allez pouvoir la revivre en vous rendant sur notre site internet franceculture.fr à la page de Sur les Docs que vous retrouverez comme chaque jour dès demain à 17h.